Avez-vous déjà entendu parler de l'association Négawatt? De son scénario misant sur un mix énergétique composé uniquement d'énergie renouvelable à horizon 2050? Ils ne sont d'ailleurs plus les seuls à évoquer cette possibilité. RTE, le gestionnaire réseau de transport d'électricité, ou l'ADEME, l'Agence nationale de la transition écologique, ont également publié des scénarios allant en ce sens. Yves Marignac, expert et porte-parole de l'association, était de passage à Nantes le jeudi 3 février 2022 pour donner une conférence organisée par les associations Virage Énergie Climat, Alizé et la coopérative Enercop Pays de la Loire. Je suis allé le questionner sur ce fameux scénario. C'est parti pour le 20e épisode des Écolonautes. Monsieur Marignac, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, un grand merci pour votre disponibilité pour les auditrices et auditeurs de Prune. Avant de rentrer dans le vif du sujet, évoquons tout d'abord les activités de l'association Négawatt. C'est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui a publié en fin d'année dernière son 5e scénario qui permet d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui est l'objectif qui a été fixé par tous les PU à l'issue de la COP21, qui est la recommandation du groupement intergouvernemental d'experts par le climat et qui est aussi repris dans notre stratégie nationale bas carbone. Cette association, pour pouvoir construire ce scénario, elle s'est entourée d'une trentaine d'experts dont vous faites partie, qui a pu aussi échanger avec la quinzaine de salariés de l'association. Quelle a été votre place dans ce collectif?
Je participe aux réflexions en amont sur le cadrage, sur l'ambition méthodologique du scénario. Puis, plus spécifiquement, j'ai travaillé sur la partie nucléaire de ce scénario qui, compte tenu de la place du nucléaire aujourd'hui et de la difficulté à maîtriser une trajectoire de fermeture du parc, qui est un enjeu majeur. Et puis, pour finir, en tant que porte-parole de l'association, je fais partie, avec beaucoup de bonheur, des experts qui ont la charge de porter ce scénario auprès du public, de le faire connaître et de le faire désirer.
Quelles sont les évolutions majeures qui ont été apportées dans ce scénario par rapport au précédent ?
Ils n'en diffèrent pas tant que ça, en tout cas dans les grandes orientations, dans la logique générale. Ce scénario reste fixé sur un horizon 2050 qui est évidemment de plus en plus tendu, puisque les années qui ont passé depuis notre scénario précédent il y a 5 ans n'ont malheureusement pas vu les évolutions nécessaires se mettre en place. Au-delà de cet enjeu, le scénario va plus loin que le précédent dans un couplage complet entre une modélisation en énergie et donc également en émissions de gaz à effet de serre, une modélisation en matière première et une modélisation grâce à un scénario appelé AFTER de l'association Solagro sur l'ensemble des enjeux agricoles et forestiers, et donc en particulier ce couplage nous permet d'avoir de façon précise une modélisation détaillée, non seulement de la consommation sur le territoire français d'énergie et de matières premières et des émissions associées, mais également de cette consommation en empreinte, ce qui nous permet notamment de viser une neutralité carbone en empreinte, c'est-à-dire en tenant compte des émissions des biens que l'on importe, et de calculer également une forte réduction de notre empreinte en matière première.
Cette feuille de route qui permet de se projeter, elle s'appuie sur le triptyque sobriété, efficacité et renouvelable, et cela quel que soit le domaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ces trois concepts sont complémentaires et fondamentaux selon vous? Est-ce que vous pouvez illustrer votre réponse de cas concrets?
Le point de départ peut-être de cette approche et de ce triptyque, c'est de souligner à quel point on a affaire à un problème systémique, au sens d'un système qu'il faut transformer. Pourquoi systémique ? Parce que l'énergie, en général, la manière dont on la produit et dont on la consomme, structure nos modes de vie, notre économie, notre société. Et ce système, tel qu'il est structuré aujourd'hui, à travers le changement climatique, bien sûr, et cette urgence, à travers les atteintes à la biodiversité, à travers les consommations et l'épuisement de ressources, ou toutes les inégalités et les tensions que cela génère, ce système n'est pas soutenable. Et c'est là qu'intervient le triptyque, qui consiste en fait à renverser la manière de regarder l'énergie et de regarder le problème par rapport à la vision traditionnelle, qui part des ressources, pour aller aux usages que l'on fait de l'énergie. Nous, on considère que c'est le service que nous rend la consommation d'énergie qui est au cœur de ce système énergétique et que donc, il faut commencer par réfléchir, prioriser les services. C'est là qu'intervient la sobriété qui passe aussi bien par le fait d'éteindre des appareils dont on ne se sert pas, le fait de maîtriser les surfaces de bâtiments, d'essayer d'utiliser des véhicules adaptés à nos usages, de réduire l'obsolescence programmée des objets, etc. C'est une question d'évolution des modes de vie, mais le danger serait de faire porter la charge de cette évolution uniquement sur les consommateurs, alors que quand on parle d'aménagement du territoire pour réduire les distances, quand on parle d'accès au transport collectif, ça ne se joue pas que du côté des consommateurs, mais du côté des pouvoirs publics, qui doivent créer les infrastructures nécessaires, qui doivent réguler les marchés pour que les entreprises elles-mêmes créent ce que nous appelons une offre de sobriété, c'est-à-dire mettre les consommateurs dans des conditions de consommer plus intelligemment et de ne consommer que pour des services qu'ils souhaitent réellement. Ça, c'est donc le premier volet. Ensuite, l'efficacité consiste à réduire les pertes, améliorer les rendements, c'est la qualité de nos appareils électriques, c'est l'efficacité de nos véhicules, c'est surtout, c'est un énorme morceau de la transition énergétique, la rénovation thermique performante de nos bâtiments. Cette efficacité conjuguée à la sobriété est en fait le moyen de contenir la quantité d'énergie, la quantité de ressources énergétiques que l'on a besoin de mobiliser. Et c'est parce qu'on peut contenir cette ressource que l'on peut faire un travail de substitution entre les ressources. Et c'est là qu'interviennent les énergies renouvelables qui vont venir remplacer progressivement des énergies fossiles et nucléaires qui épuisent des stocks géologiques et les remplacer par des formes d'énergie qui, au contraire, s'appuient sur des flux naturels qu'elles n'épuisent en rien.
Donc on comprend bien. D'abord, c'est fondamental de réduire les consommations d'énergie. Et ce qui concerne ensuite le développement des énergies renouvelables, si on regarde la question des énergies renouvelables électriques, dans le scénario, il y a un certain nombre de propositions très concrètes qui sont faites. On voit par exemple sur l'éolien terrestre que si on développe plutôt des machines puissantes, on arriverait à horizon 2050 à avoir un peu moins de 20 000 machines, ce qui est déjà moindre que le nombre de machines qu'il y a déjà aujourd'hui en Allemagne. On voit que sur le solaire photovoltaïque, la proposition de mégawatts détaille tout un tas de types de centrales solaires en toiture ou au sol, en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de concurrence avec l'agriculture par exemple. Donc un scénario qui est réaliste et mesuré. Par ailleurs, ce scénario mise sur la sortie progressive et planifiée du nucléaire. C'est pourtant une énergie qualifiée par certains d'énergie décarbonée. Pourquoi la sortir du mix énergétique à long terme ?
Pour nous, la distinction fondamentale à faire au niveau des ressources ne se joue pas seulement sur leur contenu en carbone. La soutenabilité doit tenir compte d'énormément d'autres enjeux. Pour nous, fondamentalement, des énergies qui épuisent des stocks sont moins soutenables que des énergies qui utilisent ou exploitent des flux. Et donc, le nucléaire fait partie des énergies que l'on considère moins soutenables. Deuxième point, la faisabilité d'un système 100% renouvelable électrique avec des outils de stockage, de flexibilité, la possibilité, elle est aujourd'hui, cette faisabilité, confortée par de plus en plus d'études, y compris au niveau le plus officiel en France, par les scénarios notamment de RTE. Et le dernier point, c'est que il y a aujourd'hui même plus de match au niveau mondial entre les renouvelables et le nucléaire. Les renouvelables ont ajouté plus de 280 ou 90 gigawatts de capacité dans le monde en 2021. Le nucléaire a vu sa capacité régresser légèrement. Donc les dynamiques mondiales sont très clairement en termes de compétitivité, de performance et de rythme du côté des renouvelables. Et donc il n'y a aucune raison pour nous de ne pas se projeter dans un système 100% renouvelable à 2050. La clé ensuite, c'est de travailler à la maîtrise du rythme de fermeture des réacteurs. Et ça, c'est évidemment pas du tout trivial. Mais le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que la difficulté à maîtriser cette trajectoire de fermeture conduit en fait à une fuite en avant, à repousser toujours un peu plus l'échéance en pariant sur une prolongation de la durée de vie qui, de notre point de vue, est extrêmement périlleuse, à la fois du point de vue de la sûreté nucléaire et du point de vue de la vulnérabilité qu'elle génère pour le système électrique.
Merci beaucoup pour ces informations.
Merci de m'avoir invité pour présenter ce scénario.
Clap de fin pour les Écolonautes. Retrouvez ce reportage et plein d'autres, ainsi que des références sur le scénario Négawatt sur www.prune.net.